Bonjour, bienvenue, et puis sachez que dans quelques instants, notre invitée d'honneur sera Patricia Cass, qui retrace avec émotion et franchise un chemin qui n'a pas toujours été semé de pétales de roses. Voici vos grosses têtes. Avant de nous rejoindre, il ne cherchait la petite bête que dans sa toison personnelle, Jean-Jacques Perroni.
Bonjour.
Meneur d'hommes, suiveur de femmes, Jacques Maillot.
Bonjour.
Chansonnier d'investigation, Bernard Mabille.
Bonjour.
La fébrilité de ses mains quand elle voit un bel homme contredit son air de ne pas y toucher. Évelyne Leclerc.
Bonjour.
Il saute le déjeuner et ensuite tout ce qu'il trouve. Jacques Balutin.
Oh, c'est flatteur. Merci. Bonjour. C'est flatteur.
Alors, Ribéry a fait sa réapparition dans une conférence de presse mémorable.
Oh là là,
très bien.
Il parle,
il parle bien. Qu'est-ce qu'il s'est parlé ?
Impeccable.
Eh, c'est un bonheur de l'écouter, ce mec-là.
Oh là là.
Tu sens qu'il y a un problème dans l'éducation nationale.
Oh, oui, alors je comprends pas qu'ils le prennent pas.
Moi, ça m'a rappelé Montesquieu, moi. Enfin, les beaux textes de Montesquieu.
Oh, la vache, et en plus, il lit bien.
Oui, il lit bien.
Il lisait tout, il avait tout écrit lui-même.
C'était angoissant.
Enfin, c'était angoissant. Plutôt que Montesquieu, il serait plutôt au stade de Montesquieu. Ouais. Il en est aux essais, là.
Ah, oui. Non, parce que c'est un footballeur, c'est pas un rugbyman.
Ah oui, c'est vrai.
Mais il paraît que c'est Zaya qui lui a soufflé les syllabes.
Je sais pas où elle lui a soufflé. Je sais pas ce qu'elle lui a soufflé.
Elle a de souffle un peu fort, elle a fait partir le cerveau avec.
Ouais, c'est la jalousie qui vous fait parler.
Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Il a dit c'est la jalousie qui fait qu'on m'a attaqué injustement. Parce que, d'abord, c'était un marché très honnête entre Zaya et lui. Elle lui consacrait un peu de son temps, il lui donnait un peu de son argent. Où est le mal ?
Exactement.
Où est le mal ? Le mal, il est devant.
Le mal, il est...
Alors ensuite, il a pris à partie les journalistes. Il a dit, c'est des gens qui me demandaient des interviews. Souvent, ils venaient pour 20 minutes, ils restaient 2 heures. Après, je les invitais à déjeuner. Et puis, quand j'ai lu leurs articles, alors là, c'était...
Enfin, quand on lui a lu les articles.
Oui. Finalement, tout le monde a été méchant avec lui. Et lui, il a toujours été disponible. Et maintenant, il repart d'un bon pied.
C'est
normal,
c'est
nécessaire, footballeur.
Il revient. Mais vous savez qu'il a le même agent que Laurent Blanc, hein, quand même.
Ah oui, quand même, ça aide. Enfin, il est quand même plus porté sur les entraîneuses que sur les entraîneurs.
Oui.
Ils ont M. Bernès, qui est l'ancien de l'OM.
Des nouvelles de Roland Dumas, vous savez.
Ah, oui, il repart pour la Libye, non ?
Eh bien oui. Alors, Roland Dumas, il a défendu son ami Kadhafi, qu'il a dit, il n'a pas caché d'ailleurs, qu'ils avaient des liens amicaux depuis très longtemps, que très souvent, il invitait Kadhafi. Il invitait Kadhafi à l'inviter.
Oui, c'est Kadhafi qui l'invitait.
Et que quand Kadhafi est venu à Paris, il lui a fait toutes sortes de gentillesses. Enfin, deux copains. Et il a dit... Il a des lubies, mais il n'est pas fou. Et il a ajouté, j'avais une tante, ma tante Marcel, qui avait aussi des lubies, et elle n'était pas folle. Voilà.
Et il couchait dessous ? Il couchait sous sa tante ou pas ?
C'est quand même bien la politique étrangère. Ça vole à un haut niveau.
Entre Kadhafi et Gbagbo, il n'a que des bonnes fréquentations, lui.
Et Vergès, c'est où ? En Corée du Nord, en ce temps-là, chez son copain.
Vergès, oui, il doit se tenir.
Vous savez, les avocats, ils ne défendent pas que des innocents.
Et puis il leur faut des honoraires quand même. Hey.
Alors je voudrais vous parler maintenant des dames, des femmes de président.
Ah oh bah elles sont toutes belles.
Alors, attendez, la première, c'est la nôtre, c'est Bernadette Chirac, qui a été élue au premier tour, comme depuis.
Alors, facile.
Ça fait une voix. Et une voix qui est contestée aujourd'hui.
Allons bon.
Oui.
Il y a des mauvais coucheurs.
Un électeur fictif du 5e arrondissement que c'est dépassé.
Non, il paraît que c'est Chirac qui aurait voté pour elle, il s'était trompé de nom, il n'avait pas compris.
Elle a puisé dans la réserve de Tibéri.
Non, mais enfin, attendez, une voix.
Madame Bernadette.
Bon,
elle n'était pas contente, vous avez vu. Elle a dit, on m'a attaqué sur mon âge, c'est vraiment pas fair play. On a dit que j'étais âgée, je suis encore très capable d'être...
Elle a quel âge, cette dame-là ?
74 ans.
Bah, eh ben, on est bien à cet âge-là.
C'est jeune.
Et elle est jeune, cette femme, merde.
Pour certains,
elle est jeune.
Pour certains, c'est une minette.
Il y en a même à 75 qui sont encore très bien.
Alors, ce qui est embêtant, c'est parce que, bon, elle est considérée comme...
Elle a une jolie tirelire, en tout cas. Je la vois chez les boulangers, tout ça, où on met les pièces jaunes. Une très jolie tirelire.
Il y a un recours devant le tribunal administratif qui va mettre... plusieurs mois, pour ne pas dire un an, pour statuer. Alors, pendant ce temps-là, elle va, elle, siéger au Conseil général de la Corrèze.
Avec son copain, avec Hollande.
Mais si on juge qu'elle n'avait pas été élue au premier tour, eh ben, elle disparaîtra complètement. C'est-à-dire qu'on l'empêche de se présenter au deuxième tour. Elle serait passée haut la main. Non, moi, je... Non, enfin, bon...
Oui, vous avez raison.
Bon, non,
bien sûr.
Faut défendre.
Qu'est-ce qu'il dit, son copain Hollande, il en est où, lui, alors?
À Hollande, il dit rien, Hollande.
On en veut au Chirac. Quand même, le mari, on l'empêche de se présenter au procès où il y allait
avec
la joie au cœur, vraiment. Non, c'est dégueulasse.
Ils sont dégueulasses, merde.
Ce sont des martyrs, ah non, vraiment.
Puis attends, des gens qui n'ont même pas un logement, c'est des SDF.
Ils sont obligés d'être logés chez un copain.
Alors, faut faire un truc pour les vieux quand même, c'est possible.
Ah oui, oui, t'as raison.
Vous croyez que c'est pratique d'habiter quai Voltaire et de s'occuper de la Corrèze? Ben, je vais vous dire, elle a du mérite, maman.
Ah oui, alors, absolument.
On devrait installer.
Et qui veut habiter quai Voltaire en plus avec le bruit qu'il y a tout le temps, jour et nuit?
On devrait installer une paire de tentes devant le musée des arts premiers pour, en soutien à Jacques Chirac.
Alors la deuxième femme de président, c'est pas chez nous que ça se passe, c'est au Grattez-moi-là.
On va vous appeler Zaya si vous voulez. Finalement. On va vous l'offrir. Hein.
On va se cotiser. On va se cotiser. Hein.
Il y a
15 ans de salaire.
Il y a le président sortant qui se nomme Alvaro Colom, qui est dit d'ailleurs le gros colon là-bas.
Oui, oui. Son fils s'appelle Christophe, je l'ai connu.
Et il a décidé, il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que ça s'est passé déjà, je crois, en Argentine, que lui allait se reposer un peu et que sa femme allait se présenter à sa place.
Ah bah, comme Kirchner.
Oui, sauf que là, il y a un article de la Constitution qui interdit à un membre de la famille du président de briguer sa succession.
Eh bien, il va changer la Constitution.
Alors, attendez, non, il a divorcé.
Ah, ah c'est pas con. Ah,
il est malin, le colon.
Ah, c'est malin.
Les statistiques.
30%,
69%,
14%,
16%,
100%,
72%, 100%.
Naturellement, les statistiques de Jean-Jacques Perroni.
La nature est mal faite. Quand on pense que 100% des poulpes ont 8 bras et qu'ils ne peuvent pas se masturber.
Ah bon? Je ne savais pas.
100% des contorsionnistes arrivent comme les chiens à se lécher les valseuses sur le canapé. 80% des gens qui ont le compas dans l'œil ne sont pas borgnes. 30% des crétins pensent qu'un parapet est un slip qui protège des odeurs des proutes. 90% des miraculés de Lourdes sont morts. 30% des fans de rugbyman sont frustrés. Leurs mecs font des essais mais ne les transforment jamais. 29% des enfants d'ivrognes n'aiment pas aller au cirque. Le nez rouge des clowns leur rappelle leur père. 40% des sourds emploient quand même l'expression « un bon entendeur, salut !» 20% des fans de plombiers ont des fuites. Et enfin, 90% des personnes qui ont connu la guerre trouvent qu'en France, il y a encore plus de voitures allemandes qu'en 1942.
Alors la cerise sur le gâteau, elle pourrait nous donner des idées à RTL. C'est une grande station qui est située dans sur un autre continent, mais bon, il y a beaucoup d'auditeurs, il y a de grands moyens, et ils ont organisé un concours pour financer le mariage d'un couple d'amoureux. Ah. Une seule condition, qu'ils se marient complètement nus. Voilà.
C'est pas gênant, ça.
On fait ça au Cap d'Agde, et puis
non,
c'est tout.
Non, c'est pas gênant, sauf que, bon, il y avait toute la noce derrière, qui, elle, était habillée. Le marié, il avait pris un chapeau haut de forme, ce qui, tout nu, est rare, sauf chez Galliano.
Oui.
Et c'était pour lui servir de cache-sexe.
Ah bah oui, un haut de forme.
Un haut de forme.
Ah, c'est bien, quand même.
Pas
c'est
un melon, non.
C'est un prétentieux.
Ça laisse quand même...
le haut de forme cachait la queue de pie.
Ouais. Moi, un petit bibi suffit.
Et alors, il n'y a pas eu la cérémonie, alors. Si,
pourquoi ?
Il y a eu la cérémonie. Ah, j'espère que c'était financé par la radio.
J'ai eu une couvert de cadeaux.
Des cadeaux, un voyage de noces payé par la radio.
Oh, bah c'est bien.
C'est bien.
C'est très bien.
Mais pourquoi on ne ferait pas ça ?
Surtout
les mariés des grosses têtes.
On le fera en hiver. Tout le monde à poil rue Bayard. Oh, quel pied. Et moi, je viens. Hein.
Alors, on s'est demandé...
Ah ben bonjour, le spectacle, hein, merci.
Bah on s'est demandé, après l'affaire Renault, quel était le prix de l'honneur d'un cadre dirigeant injustement accusé d'espionnage.
Comment c'est ?
Alors, il leur propose 2 millions d'euros à chacun.
Merci, c'est bien.
Ouais. Bah, c'est bien, mais ils trouvent que c'est pas assez. C'est pas
ils
assez.
En veulent 5, hein, c'est
oui,
ça.
Ils en veulent 5.
Oui. Ben, ils sont des joueurs de poker, ils relancent, hein, oui, c'est normal. Alors surtout qu'ils ne sont plus trois maintenant, il y a un quatrième qui s'est ajouté, parce que lui, il avait été injustement lourdé il y a 10 ans.
Ah oui.
Mais à l'époque, il ne s'en était pas aperçu. Et puis le salon de la mort, excusez-moi, c'est pas très gay, mais bon...
Bah, j'y suis allé, c'est assez vivant comme ambiance.
Alors, vous avez de la veine d'y être déjà allé.
Moi, je me suis arrêté au stand des bières.
C'est pas ouvert.
Ça ne se tiendra que dans un mois. Vous parlez peut-être de l'année dernière. Alors, il y a des nouveautés depuis l'année dernière.
Ils sont pas ouverts le couvercle.
D'abord, il y a, pour mettre sur la dalle... Il y en a qui sont en pente,
merci,
comme la
monsieur
vôtre,
Bouvard,
monsieur Perroni, des nains de tombe. Vous savez, il y a des nains de jardin.
C'est pas vrai.
Oh,
c'est
trucs. Mignon.
Alors, ça, c'est sympa.
Oui.
Et un peu alors, vous, ils sont habillés manquait, comment
ça. Ils sont en noir.
C'est un peu vous sur Béatrice Dalle.
Béatrice Dalle, c'est pas mal.
Ah,
hein.
Béatrice Dalle.
Ça vaut le coup d'être dessus.
Ah, hein. Oui.
Ah oui.
Ou même à genoux devant.
Ils sont habillés comment ?
Alors, vous faites ce que vous voulez. Ça peut même être, dans certains cas, une statue grandeur nature du défunt. Vous voyez à qui je pense. Ça peut remplacer les familles quand elles oublient de venir voir leur mort. Non, moi, je trouve que ça... En tout cas, j'ai une photo, là, ça garnit bien. Alors, évidemment, ça fait un peu ouais, ouais.
Oh, moi, je vais en acheter un pour mon jardin en Bretagne. Je vais le mettre sous le saule pleureur.
Ah oui. Alors, vous avez autre chose. Vous avez la plaque funéraire lumineuse.
Ah, bien.
C'est chouette.
Ça clignote.
Alors, tantôt, c'est une lumière stable. Tantôt, avec un petit supplément, ça peut clignoter.
Vous vous rendez compte, un ancien patron de bistrot, la nuit, ça clignote chez Roger. Oh là, c'est formidable.
Tu vas passer devant le Père Lachaise, tu vas te croire à Las Vegas. Ça va avoir de la gueule. Hein.
C'est sympa. Ouais. Ce qui est con, c'est que c'est fermé la nuit. Alors, je ne vois pas à quoi ça sert que ce soit lumineux.
Ah, c'est pas tout. Hein. Alors, vous avez les messages posthumes de remerciement. C'est-à-dire, le défunt enregistre avant sa disparition des messages pour remercier tous ceux qui, à l'occasion de cette disparition, auront témoigné leur compassion à la famille.
Et comment ils font ? Ils appuient sur un bouton sur la dalle ?
Non.
Il appuie et ça cause.
Non, il laisse ça.
C'est une heure de studio.
À la famille, comme un testament.
Voilà. Ça fait partie de ses dernières volontés.
Enregistré.
Mais alors, il ne sait pas qui va manifester. Bah donc, c'est à la famille d'envoyer les messages.
On peut enregistrer une vidéo aussi.
Voilà. On peut envoyer. Et alors, attendez, non seulement on peut enregistrer une vidéo, mais on peut enregistrer une vidéo avec son éloge funèbre.
Ah oui, comme ça,
on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Absolument.
Ah oui.
C'est-à-dire, vous...
Je m'aimais bien.
Oui, vous dites tout le bien que vous pensez de vous-même. Ça peut prendre longtemps, d'ailleurs.
Repose ici, cher Jean-Jacques, tu l'as bien mérité, ton repos.
Bah, ça économise une attachée de presse, hein, finalement. Oui.
Et puis enfin, alors
Alain
ça...
Alain Delon, ça va être long, disons.
C'est peut-être le...
Bah, il va parler à la troisième personne. Hein.
C'est peut-être le plus étonnant, mais tout le monde ne s'y prêtera pas. dans ce salon de la mort qui va se tenir dans quelques jours au Louvre, non, il y aura des essais de cercueil.
Ah, oui.
Ça c'est sympa. Donc ça c'est très agréable.
Il vous aide à en sortir.
Oui. Alors il y a un vendeur qui vous dit, écoutez, il vous va, monsieur, vraiment. Moi, j'ai pris le même à la maison. Alors.
Ce petit capitonné rose vous va
peut-être vous prendre du bleu pour l'intérieur pour assortir à vos yeux.
Monsieur Pironi, je vous conseillerais un capitonnage Litvin.
Bon, ça va sentir le sapin. Hein. Ah ouais. Voilà, mais c'est une belle manifestation. Enfin, il vaut mieux prendre ça à la rigolade. Ah ouais, alors, vous savez qu'en Allemagne, la démographie est inquiétante parce qu'il y a très peu de naissances et il y a de plus en plus de seniors. Alors, on a ouvert d'urgence une école pour les croque-morts.
Ah oui.
Parce qu'il n'y en a pas assez et parce qu'il y a plein de jeunes qui sont volontaires.
Bien sûr.
Moi, j'ai un copain croque-mort. Il est drôle comme tout dans la vie.
Ah oui.
Il est joyeux, il nous raconte des anecdotes.
Il est à mourir de rire.
Tu sors avec
lui. Il nous raconte des anecdotes incroyables.
Il t'emmène en boîte.
Oui. Si ce que vous dites est vrai, donc s'il y a beaucoup de vieux en Allemagne, ce n'est plus la Bavière, c'est Bavoire.
Non, mais votre copain... Parce que j'imagine que c'est un copain très cher, hein, très intime.
Très sympathique, on va dire. Ah, oui.
Il vous dit, si madame veut l'embrasser une dernière fois, le membre de la famille, avant que je le mette dans le trou, non? Alors nous allons avoir un invité surprise que nous connaissons bien et que nous affectionnons. C'est Alain Decaux. Bonjour, cher Alain Decaux.
Très cher ami.
Alors, si je me permets de vous déranger, parce que je suppose que, comme d'habitude, vous travaillez, c'est parce que j'ai lu que les candidatures affluaient à l'Académie, notamment celles qui concernent le fauteuil du regretté Maurice Druon.
Oui, bien sûr.
J'ai vu cette liste de noms et elle m'a stupéfié parce que je n'en connaissais aucun.
Ah, mais non, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu à l'Académie des candidats que l'on appelle fantaisistes.
Il y a par exemple Monsieur Mathieu Carassou, vous le connaissiez ?
Non, c'est un de ces candidats-là. Mais à côté des candidats dits fantaisistes, il y a des candidats sérieux. Nous en avons au moins trois, là, cette fois.
Alors, je citerai Nicolas Calgary, Bernard Henri Michard, Michel Borel, Édouard Valman, Laurent Calixte.
Oui, mais on a ça à chaque fois, mon cher ami. Parce qu'il y a des gens, d'ailleurs, ces fantaisistes sont quelquefois sérieux, parce qu'ils écrivent « Je sais que je n'ai aucune chance, mais j'aime tellement l'Académie que je me présente dans le seul but de lui écrire ».
Mais il arrive parfois qu'un de ces fantaisistes obtient à l'usure quelques voix, hein.
Oui, ça arrive.
On pense à Ferdinand Lope qui a eu des voix.
Oui, Ferdinand Lope, voilà. Mais autrement, vous savez, vous savez bien que c'est une règle qui a été fixée par Richelieu. C'est pas du tout d'aujourd'hui. C'est Richelieu qui nous a fondés, nous autres. Et là, on se présente.
Vous vous souvenez, Alain Decaux, du vicomte de Venelle, non ?
Le vicomte de Venelle, où c'était quelqu'un qui a été le faux préfacier du vrai Dumas.
Il a été candidat pendant 42 ans.
Oh ben, il y en a plein.
Oui.
Il y en a plein qui finissent par arriver, quelquefois. Alors bon, moi, je n'ai été candidat que pendant 2 ans, et j'y suis arrivé assez vite. J'étais l'un de ce qu'on appelait les jeunes, c'est-à-dire que je devais avoir 52 ans, mais c'est très rare, finalement. On se présente plus tard, mais vous savez qu'il y a une règle nouvelle.
Oui, c'est qu'à partir de 75 ans, c'est fini, hein ?
Oui, parce que comme on vieillit de plus en plus, qu'on voit dans la presse que la logique, c'est que 130 ans n'est pas impossible. Oui. Nous nous sommes dit, eh bien voilà, il faudrait quand même pas qu'on ait que des centenaires. Jusqu'ici, on a eu un centenaire seulement, et voilà. Mais cela dit, L'Académie est toujours l'Académie.
Oui, oui, elle sera toujours l'Académie. Voilà, Paris sera toujours Paris. Et vous, j'espère, le plus longtemps possible, Alain Decaux. Merci.
Eh bien, merci à vous.
Autour de moi, et pour recevoir dignement notre invité d'honneur, Jacques Maillot.
Présent.
Bernard Mabille.
Présent.
C'est pas vrai d'ailleurs, je paye tous mes costumes. Jean-Jacques Perroni.
Présent.
Evelyne Leclerc.
Présent.
Et Jacques Benoupin.
Présent.
Et puis, notre invitée d'honneur, une grande dame de la chanson qui avoue se méfier souvent des petits messieurs, c'est Patricia Cass. Voilà, elle arrive toute jolie, précédée de cette...
De tequila.
Ah oui,
voilà.
C'est quelle race
ça? C'est mexicain. C'est un bichon maltais, mais un peu bien nourri et puis assez rasé.
Le bichon maltais, c'est celui des Chirac qui avait fini par mordre le président.
Oui, mais ça mord ces machins-là.
Ah oui.
Il avait mordu à la ceinture, ça veut dire qu'il avait sauté haut quand même. Quand vous voyez où Chirac porte la ceinture, c'est à peu près au niveau des épaules.
Oui, son pantalon lui fait col roulé.
Alors je vais vous demander d'ouvrir votre sac, s'il vous plaît, de bien vouloir nous révéler ce qu'il y a dedans, parce que...
Là, tout de suite.
Dis-moi, oui.
Oh, bah, dis donc, regardez, on a le temps, j'espère.
Oh là là, dites donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Il est grand, ce sac. Alors ça c'est ma veste, hein. Ça c'est au cas où il fait froid sur les plateaux.
C'est une valise, hein, ça.
Bah oui.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai? Mon planning.
Alors évidemment un planning qui est très rempli puisque vient de paraître ce livre intitulé L'ombre de ma voix dont on va parler tout à l'heure.
Après,
un peu d'argent quand même.
J'ai mon portable.
Oui.
J'ai des sous, oui, pas beaucoup.
C'est-à-dire combien?
C'est-à-dire.
Oh alors, mais c'est quand même combien j'ai d'argent? 150 à peu près.
Ah, ouais, c'est bien.
C'est
dans la moyenne haute.
Mais
c'est pas terrible.
C'est pour une vedette, bon, c'est minimum.
Mais j'ai la carte bleue.
Ah oui.
Et
ah.
La carte vitale, of course.
Oui. Ensuite, pas de cigarette.
Non. Pas de cigarette. Un peu de maquillage, hein, les femmes.
Oui, oui. Un petit raccord.
Le collier du chien, les clés de la maison. Mes lunettes de vue. Parce
des
que,
des croquettes pour l'animal, non?
Non, pour moi, j'ai des croquettes pour moi. Non, mais les petites, voilà, on a toujours besoin, hein, quand même, on ne sait jamais. Et puis une petite trousse dans laquelle j'ai un... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, pour faire boire mon petit chien. Et puis les sacs à caca.
Ah oui, bah oui.
Ah bah oui.
J'ai le même pour moi.
Voilà. Voilà.
Dites donc, il est bichonné, votre bichon, hein?
Vous parlez bien japonais, sac à caca.
Sac à caca.
Alors, voici donc, pareil, un livre où vous vous dévoilez avec beaucoup de franchise, souvent avec de l'émotion. Est-ce que vous avez dû forcer un peu votre naturel pour évoquer votre vie privée?
Peut-être au début, avant, quand on m'a demandé d'écrire cette autobiographie, enfin avec l'aide de Sophie, bien sûr, parce que je ne suis pas la plume, je raconte mon histoire, même si après... Au bout d'un moment, je me suis investie de plus en plus parce que pour moi, c'était, d'ailleurs je le dis à la fin du livre, c'était un peu comme une thérapie, ce que je ne savais pas au début.
Oui, oui.
Et
ça vaut un psy, hein?
Ouais, ça vaut un psy, c'est ça, exactement. Mais et donc au début, je savais pas trop, et au fur et à mesure, j'avais moi-même envie de dévoiler plus.
Les souvenirs, c'est comme les cornichons, quand on en tire un, les autres viennent, hein.
Avec un truc comme ça,
oui,
là.
Oui, hein.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est la même image,
beau,
mais...
Ça, c'est beau, vraiment.
Je
ne
sais pas si c'est la bonne image, mais...
Non, c'est très poétique.
Ah non, c'est beau.
Il ne mord pas votre bestiole, là, parce qu'il est en train de faire la salle, là, non.
C'est un amour de chien.
Bon, il est gentil comme tout.
En plus, il est propre, parce qu'ils sont drôlement bons.
Quelles sont les caractéristiques d'une femme libérée, comme vous affirmez l'être?
La discipline, ça c'est le côté, bien sûr, mon côté un peu allemand quand même, hein, la discipline, l'exigence, après...
Non mais attendez, ça ce sont des qualités de rigueur, la femme libérée, c'est une femme qui fait ce qu'elle a envie de faire.
C'est même Courgette qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Oh non, pas vous allez refroidir l'atmosphère.
Enfin, une femme libérée...
C'est une femme qui a établi un certain rapport de force avec les hommes, déjà.
Oui, mais bon,
j'aime
pas trop généraliser, parce que bon, à partir de 20 ans, c'est vrai que comme j'avais plus ma maman, j'avais des décisions à prendre, et j'étais entourée de pas mal de gens, parce que à partir du moment où je pars en tournée, ben, c'est un peu comme une usine qui se met en marche, et si moi ça va pas, ben, forcément, le reste c'est pareil. Donc, après, la liberté, je sais pas, chacun a sa propre vision de la limite de la liberté, quoi.
Votre côté allemand que vous évoquiez tout à l'heure, ça s'explique par le fait que vous étiez à quelques mètres de la frontière allemande.
Voilà, 50 mètres d'ailleurs.
Ah oui. Ça a des avantages, une zone frontalière, non ?
Oui, déjà parce que vous êtes bilingue, même si voilà, parce que mon langage, c'est un langage très, très simple en français comme en allemand d'ailleurs. Et ensuite, vous êtes toujours tout de suite un peu noyé dans deux cultures. En même temps, les frontaliers comme ça se sentent ni français ni allemand. Donc on est un peu. Donc c'est un avantage, mais on ne sait pas vraiment non plus.
Et votre première langue, c'est l'allemand.
Voilà, mais c'est un allemand, un espèce de patois.
D'Alsacien
Non, même pas. Déjà, c'est la Lorraine, mais c'est plutôt Savoie, le côté allemand.
Une sorte d'allemand de cuisine, quoi. Un peu.
Oui.
C'est comme du pigeon en anglais, quoi. Ouais.
Alors, il y a deux livres en un seul. Il y a le roman d'une carrière brillante et qui est loin d'être terminée. Et puis, il y a le roman d'une femme qui a la qualité, mais aussi l'inconvénient d'être belle et d'être remarquée des hommes. Et là, ça provoque, à certains moments, une espèce d'appréhension de votre part. Par exemple, quand un homme dit vouloir vous connaître de plus près, vous commencez à vous inquiéter, hein ?
C'était surtout au début, parce que quand comme j'arrivais petite, d'une petite ville et j'arrivais à Paris un peu paumé, un peu perdu, complexé par mon accent, etc. Donc j'avais en plus mes parents, surtout maman, elle était très un peu, comment on utilise des mots anglais, old school, hein, un peu... du coup, quand quelqu'un me disait « oui, je veux vous connaître de plus près », surtout que le show business, quand même, c'était... Enfin,
il y a du vice là.
Il y a quand même peu du drôle de
vous dites, d'ailleurs,
quand même,
vous dites d'ailleurs qu'il y a des pervers, des salauds et des rusés. C'est les trois catégories d'hommes dont vous vous méfiez. Comment vous les reconnaissez ?
Oh ben on les reconnaît pas, malheureusement. Hein. C'est quand c'est trop tard, quand on se dit « ah ben mince alors
ouais. ». Ah oui.
Mais c'est pas, vous ne faites pas entrer là-dedans les gens qui posent des questions à la radio.
Ah non. Oh bah c'est pas le genre. Hein,
non, non, surtout que vous n'avez pas votre imperméable sur vous, Philippe. Alors, tranquille.
Combien de temps dure en général ce que vous appelez vos parenthèses amoureuses ? C'est-à-dire que la carrière est tellement prenante qu'on ne peut pas toujours mener de front vie privée et vie professionnelle.
Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile quand on prend comme ça des phrases dans le livre, parce que j'ai vécu des histoires qui ont duré, une histoire de 6 ans, une histoire de 4 ans, une histoire de 7 ans. Donc c'est
ben voilà,
déjà
vous avez répondu, ça va de 3 ans à 7 ans. Voilà.
Hein, c'est énorme.
Après, c'est beaucoup pour dans le milieu artistique.
Ah, c'est
hein.
énorme.
Mais c'est
énorme.
Très difficile pour une femme vie. Connue. Je ne suis pas aussi connue que Patricia, mais quand une femme est célèbre, c'est très difficile de réussir sa vie privée.
Ben oui.
Je ne connais pas beaucoup les voyages, qui réussissent sur tous les plans. C'est impossible. C'est pas
ben
possible.
Oui, ben
c'est regarde la pauvre Martine Aubry.
Ben mais évidemment. Et notre Arlette.
Oui, Arlette.
Notre Arlette.
C'est Arlette.
Qui s'est jamais mariée. Notre
jamais.
Arlette. Ça
m'a
fait une peine.
Elle jamais passée de l'autre côté du comptoir.
Elle a vécu en concubinage avec un vélo d'appartement.
Ben oui, vous imaginez.
C'est une tristesse.
Il n'y a pas de
frein. J'ai jamais été mariée non plus. Hein.
Non.
Ah bon.
Non. Ah, il y a eu des projets quand même. Mais bon, ça.
Des projets de mariage ? Moi, non.
Enfin, on vous a demandé.
Vous êtes passé à côté d'une belle chose.
Oui. Ah bon ?
Et croyez-le.
Oui, jamais trop tard.
Et croyez-le, il sait de quoi il parle au 9e. Alors lui, il sait.
Non, c'est un spécialiste du mariage.
Un spécialiste, Bernard.
Vous n'avez pas renoncé quand même au mariage, là ?
Enfin, j'ai pas renoncé. Moi, ça m'a jamais plus excité que ça. Hein.
Non, oui, ouais, non.
Le mariage,
non, ça sert à rien.
Je sais pas.
J'ai été mariée deux fois. Je sais pas.
Ah ouais.
Moi, je pense qu'on peut vivre avec quelqu'un, aimer quelqu'un, sans obliger.
Oui.
C'est ce que je dis au pape sans
après,
arrêt.
C'est sûr que, avec... c'est sûr que les fêtes habillées en blanc, tout ça, ça peut faire rêver. Hein. Ça fait un côté un peu princesse. Oui. Mais bon,
habillé en blanc, puis en c'est blanc, sale le soir. De toute façon, c'est pas.
Oui, mais bon,
il
le
soir. Il y a des mains partout sur la robe de la mariée.
Il y a des taches de vin après le buffet.
Et ça traîne.
Mais ça, c'est ça qui la rend moderne, en fait.
On est en blanc quand on est vierge, hein, c'est ça, non?
Oui.
Oui, oui. Donc c'est complètement raté.
C'est symbolique.
On a même, je crois, une couronne d'oranger.
Ah oui. Oui. Tu sais ce qu'on dit de la barrière, en blanc le matin et enfoncé le soir.
On voulait vous présenter le poète.
Quoique c'est faux. Parce qu'en général, ils sont trop fatigués le soir même.
Ah, oui. Si ça vous intéresse, Jean-Jacques est libre. Oui.
Si vous avez envie de rencontrer un poète, on en a un au bout là.
Je vous remercie les gars, c'est bien.
Est-ce que vous avez dû souvent choisir alors entre la carrière et l'amour?
Enfin, choisir, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est pas forcément un choix.
Est-ce que Georges Clooney est pour vous l'homme idéal? Parce que vous, c'est parce que vous aimez les petits noirs ou
elle
vous affectionnez les grands blonds?
Non, mais qui n'aime pas, franchement,
Georges
Clooney, il est pas mal,
moi,
non
moi,
après, est-ce
pas
que c'est l'homme idéal? J'en sais rien.
Philippe, il s'en fout complètement. Évidemment, il n'aime pas le café.
En plus, il est con, mais il est con. Oh, vous seriez déçus, je vous
assure. Il est petit.
N'écoutez pas Philippe au niveau cinéma, il en est resté à Pierral, lui. Alors.
Non, c'est un bel homme.
C'est
votre type d'homme.
Mais bon, j'aime Viggo Mortensen.
Aussi, bien.
Voilà, qui est très différent comme physiquement.
Bah, Viggo Mortensen, c'est bien aussi.
Hein. Oui, Viggo, si mon temps, parce que genre... Ah bah quoi que non, Georges, dans les dernières nouvelles, je crois que c'était...
Vous l'appelez Georges, vous l'appelez Georges?
Oui, Georges, parce elle espère, parce qu'il vient le rompre.
Ah oui.
Donc, il vient le rompre, il paraît que ça n'a jamais été.
Ah, en plus?
C'était juste pour cacher.
Oh, c'est un très mauvais coup.
Ah bon?
Paraît-il. On n'est pas là pour dire du mal, mais paraît-il.
D'ailleurs, Bichon, regarde Bichon.
Il a des puces.
Vous avez
Bichon.
Vu l'effet que ça lui fait. Hein. Ah oui, je vais expliquer. Quand je dis Georges, tu fais ça. Hein, donc,
Alors, Gérard Depardieu.
Il va te mordre, attention.
Voilà. Voilà. Viens la pépé. Vous n'avez pas le même andalois, on rigole un peu.
Il a tout de suite compris le chien.
Non, il est méchant, non?
Non.
Péroni, non.
Non. Non, mais il faut se méfier des petits chiens comme ça.
Voilà, il vient parce qu'il a vu que j'étais un roquet, alors ça l'intéresse. Gérard Depardieu a été votre producteur, pas votre reproducteur.
Il a été le producteur
du premier disque. Hein.
Il a financé le premier 45 tours.
C'est bien ça. Je ne savais pas qu'il était comme ça à l'affût des nouveaux
talents.
Mais bon,
c'est vrai qu'à la base, il y avait François Bernheim qui le connaissait très bien, qui était un ami proche de la famille et qui travaillait d'ailleurs avec Elisabeth, qui m'a écrit des textes, Elisabeth Depardieu. Voilà, et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Gérard, parce qu'à l'époque, il avait envie de s'investir dans des choses différentes que juste le cinéma, et donc il avait produit financièrement ce 45 tours.
Mais le premier, hein, pas après?
Non, pas après.
Non. Ça n'a pas marché, le premier?
Le premier, non, Jalouse n'avait pas marché, non.
Après, il aurait gagné de l'argent. Bah,
hein. Mais il en a gagné, parce qu'il figurait quand même sur le contrat du premier album, et le premier album était quand même un carton. Donc,
après, il est allé chercher du pétrole avec Fidel Castro.
Des poulets, il n'a pas été dans
Fidel
le poulet.
Castro,
aussi,
qui
était dans le poulet.
Qui a dû perdre de l'argent, et il est toujours en survêtement depuis des mois.
Mais il vit toujours, Fidel Castro.
Oui.
Mais c'est ça, quand même.
Il a des problèmes. Raoul qui gouverne. Hein.
Mais lui, il a des problèmes intestinaux, c'est Fidel Gastro en ce moment.
Est-ce que certains de vos compagnons étaient intéressés par votre notoriété ou par votre argent?
Oui.
C'est arrivé, hein?
Oui. D'ailleurs, dans le livre, le chapitre s'appelle « Pauvre de moi, j'y crois ». Et je ne cite pas son nom, je le cite l'amoureux, parce que c'est allé très loin dans des procès, etc. Et c'est en plus avec quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 6 ans, donc forcément...
Et vous n'en êtes pas aperçu tout de suite?
Non. Mais je pense que c'était enfin j'espère, on va quand même en prendre un côté un peu de positif au début. Je pense qu'au début c'était l'amour, etc. Mais après il y avait un voilà, il y a la notoriété, l'argent qui a
tous
fait
les
que
les hommes ne sont pas comme ça.
C'était ouais. Pour lui, il voulait voilà, il voulait que les gens autour de moi qui s'occupent un peu les pousser hein pour prendre la place.
Regardez,
tous les hommes sont pas comme ça, c'est ouais. Heureusement non. Parce que sinon non,
regardez René.
Qu'est-ce qu'on va faire
René avec Céline, ça l'intéresse pas le
pognon. Est-ce qu'à l'inverse vous n'avez pas été dragué parfois par des hommes qui savaient pas qui vous étiez?
Si en Suisse. D'ailleurs, j'en parle, un Suisse.
Oui, c'est pour ça que j'en parle aussi.
Ah, voilà.
Ah bah alors parlez-vous entre vous.
Oui, et c'était très agréable, d'ailleurs.
Alors, il ne sait même pas qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie.
Il connaissait, en fait, quand je lui ai dit mon nom, il savait. Mais physiquement, il ne savait pas qui j'étais. Donc ça, c'est bien. Du coup,
c'est bien d'être aimé pour soi-même et pas pour sa notoriété ni pour son argent.
Ah, puis par un Suisse, c'est un bon placement, ça je veux dire.
Qu'y a-t-il eu entre vous et Vladimir Poutine?
Qu'est-ce qu'il y a eu?
Une rencontre?
Oui, enfin plusieurs même, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et
il est sympa.
Attention, il y a rencontre et rencontre, attention.
Il est sympa.
Bah, avec moi, il a toujours été sympa. Maintenant, il y a toujours le devant et quand je me méfie avec vous quand je dis quelque chose. Oui.
Attention ici, c'est très dangereux.
Non, mais c'est sans arrière-pensée.
Oui, non, mais c'est certes.
C'est lui qui vous avait envoyé les gens du KGB qui vous cornaquaient à Moscou?
Non.
Non, parce
tu sais
que
quoi
vous étiez très entouré par des policiers quand vous êtes allé à Moscou.
Ouais, mais ça, comme j'ai chanté, enfin j'y suis allé, ça fait, je sais pas, la première fois c'était il y a 20 ans, c'était comme ça. Hein,
oui. Maintenant c'est un peu moins. Hein.
Bon, on a toujours une sécurité, mais c'est.
Alors Poutine, vous le rencontrez comment?
Je l'ai rencontré à plusieurs occasions. Déjà parce que j'avais fait un concert à Moscou. Comment s'appelle déjà là sur oh là là, j'oublie toujours le nom de cette salle. Non, enfin c'est pas très long. C'est sur la place Rouge d'ailleurs.
Vers le Bolchoï.
Et non. Ah, ça aurait été génial.
Le Komsomol,
et bien il est en réparation.
Et là, c'était la première fois. Et après, j'ai chanté parce qu'il avait fait une fête de Noël pour tous les, je sais pas, pour tous ses amis, etc. Donc j'avais chanté pour lui aussi à plusieurs reprises. Quoi,
petit papa Poutine.
Ouais. Ouais. Petit papa Poutine, il m'a pas demandé celle-là, mais
Mais il est gentil.
Pour la prochaine fois,
c'est un homme gentil, affectueux.
Enfin, j'ai échangé quelques mots avec lui,
en
allemand,
Il
parle très bien allemand.
Ils ont des restes. Hein,
et voilà, donc KGB. Et avec moi, bon, il a toujours été plutôt très affectif et gentil, quoi.
Mais il va pas vous mordre.
Vous lui avez pas chanté chez Tchétchène?
Au Kremlin, c'était au Kremlin. Voilà, ça y est, je me rappelle, au Kremlin. L'endroit où j'ai chanté.
Au Kremlin.
Voilà,
c'est pas le plus désagréable.
Non, il doit pas avoir un sens de l'humour très fort.
Moi, je crois qu'il est assez drôle.
C'est vrai.
Sous la torture, il doit être rigolo. Ouais.
Moi, j'ai parlé de lui avec un guépard. Il m'a dit, il est assez marrant.
Il est petit, non?
Il est très petit.
Très petit, oui.
Oui, mais il est musclé, hein.
Je n'ai pas fait attention
pas
à ce point.
Ils ont des à la main, ils ont des
parce que souvent les petits sont un peu rondouillards.
Oui. Lui, mais...
Alors, il y a naturellement, avant l'histoire de la carrière de Patricia Cass, il y a son histoire familiale et la description d'un père qui exerçait un des métiers les plus difficiles, les plus dangereux, qui était mineur, et dont vous dites qu'il était passionnément attaché à ce métier.
Oui, non seulement très attaché, mais très fier d'être mineur de fond. Pour lui, c'était...
C'est une noblesse. Hein.
Ben oui.
Et d'ailleurs, j'en parle au moment où je monte à Paris et que je lui présente Gérard Depardieu. Donc, je lui explique qui est Gérard. Et puis, il me dit, alors, un acteur, ouais. Et moi, j'ai 27 ans de mine. Donc, pour lui, il n'y avait pas de différence, quoi. Parce qu'il y en a un qui est peut-être plus dans la lumière et l'autre plus dans l'ombre. Mais avec la même fierté, quoi. La même...
Qui est devenu Paddy Pax, là?
Paddy Pax, Paddy Pax.
C'est la capitaine des majorettes.
Je sais toujours bien mener la baguette.
Vous étiez majorette, hein?
Ah oui, j'étais majorette et capitaine, même des mini, parce que vous aviez les petites et les grands.
Le Twirling, le bâton, c'est ça?
Vous lanciez le bâton ?
Oui, oui.
Attention, Bernard.
C'est tout ça, Bernard. Non, non, gaffe où tu vas.
Non, j'ai toujours été fasciné par les mesures.
C'est ça, ah, oui. Bah oui, on comprend ça.
C'est pas le tour, ouais. Ça s'appelle pas un truc.
Non.
Il faut jongler avec le bâton.
Oui, et puis il faut, faut...
Ça va dégénérer. Là.
C'est physique, quoi. Il y a la marche. Il y a la...
Et puis, faut pas être frileuse. Hein. Faut pas être frileuse.
Faut pas être frileuse, oui. Mais bon, c'est bien parce que ça forge, quoi.
Moi, j'ai connu un bataillon de majorettes au Groenland. Elles étaient violettes, hein.
Donc, il faut quand même expliquer que Paddy Pax, donc c'était les Pax Majorettes de Styrin-Vandel, donc ma ville où j'ai grandi. Et comme je chantais, j'avais un petit surnom qui était Paddy, en allemand, voilà, Paddy. Et donc, il faisait le lien, Paddy Pax, voilà.
Vous avez chanté dans les balles et
j'avais chanté dans les balles, dans les fêtes de la bière.
Ah, ça forme.
Ça, c'est sûr que c'est la bonne école parce que quand vous êtes sur scène et que vous avez l'impression
chanter dans les fêtes de la bière, quand le public chante en même temps et que...
En Allemagne ou en France ? Vous les deux en Allemagne ?
En Allemagne.
Genre la fête de la bière à Munich ?
Voilà.
Ça, c'est gay.
Voilà. Bah déjà, Colmar, c'est pas facile.
Ça, c'est...
Oh, la fête de Colmar.
Mais bon, c'est sûr que vous avez envie, de, quand vous êtes sur scène, d'être entendu. Donc, à un moment, vous vous dites, voilà. Là, et quand quelqu'un jette juste un petit moment un regard, vous dites, voilà, j'ai réussi, quoi. Donc, ça, c'est...
Il faut du courage, hein.
Ah oui, quelle belle école.
Oui, oui.
Ah, je vais vous convier à un petit match de tennis. Attendez, c'est le bruit des balles. Et vous allez voir se lever le roi des arbitres.
Ne me ridiculisez pas devant Patricia,
Bernard,
quand même.
Bernard Mabille. Non, non, on dit le roi des arbitres parce que
c'est très
Même s'il a quelques peines à se hisser sur la chaise.
Le chien lui court après.
Il va monter plus vite. C'est la première fois qu'il va monter aussi vite. On peut enlever le chien qui est accroché après lui, s'il vous plaît.
Ce n'est pas la balle, ce n'est pas la balle.
Il n'est jamais monté aussi vite.
0-0.
Patricia Casse, cotisez-vous aux caisses de retraite depuis qu'à 6 ans vous avez commencé à chanter ?
Oui.
Oui.
Enfin, pas aussi jeune, mais...
Bah, vous avez commencé à chanter à 6 ans.
Oui, mais bon.
Mais c'était des petits cachets qui n'étaient pas déclarés.
Ah, c'était même pas des cachets. C'était, oui.
C'était la fête de l'école.
C'était la fête de l'école.
C'était, exactement.
On avait des
bonbons. Ouais.
Voilà, on avait des récompenses, des radios qui ne marchaient jamais. Et j'avais pas de contrat. Les contrats, c'était à 16 ans, mais c'était, je crois, 50 Deutschmark.
Oui, 16 ans, c'est tôt pour commencer à travailler déjà.
Non, ça va. Deutschmark, c'était pas mal, parce que le Deutschmark était haut à l'époque.
Bien sûr.
Il était fois 2, je crois.
Oui, quand même. C'est-à-dire que nous, on dévaluait à l'époque.
100 francs pour chanter une soirée.
Vous croyez qu'on gagne combien ici, nous? Ah, mais non, alors.
Oui, mais il fallait les costumes de scène, tout ça. Ouais. Donc,
et on nous aussi.
Et on n'a plus le Deutschmark, c'est ça.
Je vous mets un point.
Nous, on a donné plus cher à des chanteuses pour qu'elles s'abstiennent. Hein.
Ah oui, bon, on ne citera pas de nom.
J'étais chanceuse, alors.
1-0, un point pour Patricia.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus gratifiant, d'être comparé à Marlène Dietrich ou à Madonna ?
Marlène Dietrich. J'aime beaucoup Madonna parce que je trouve qu'elle a quand même amené beaucoup de choses.
Ah oui.
On peut aimer ou pas aimer.
Elle a moins de classe quand même que Marlène. Hein.
Maintenant, Marlène, c'est très différent. Marlène, ma première chanson, Vor der Kaserne, vor dem großen Tour, stand eine Kaserne und steht sie noch davor. J'ai envie d'avoir un point, hein, donc j'essaye de faire.
Je vous en donne deux. Je vous en donne deux si vous continuez un peu. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça.
Donc, j'aimais beaucoup.
Et ça rappelle les bons
souvenirs. D'ailleurs, quand j'ai commencé à chanter, très souvent, on me comparait ou à Marlène ou à Piaf, donc j'étais très flattée. Mais je trouvais toujours que le son de ma voix était beaucoup plus proche de Marlène que Piaf. Oui, maintenant, je pense que dans Piaf, il y avait plus une émotion. Et c'est vrai que le livre L'ombre de ma voix, peut-être qu'on comprend mieux cette émotion, d'où elle vient. Quoi.
Pour Jean-Jacques, chanter « Moi, j'essuie les verres au fond du café
». Monsieur le top là, monsieur le top là. Je vous ai mis votre point. Hein.
D'accord.
Avez-vous pardonné à Johnny Hallyday de vous avoir posé un lapin ?
Oui, parce que du coup, j'ai chanté avec Jean-Jacques, Je te promets. C'était pour mes premiers Restos du cœur en 92.
Et lui, il devait
venir. Je
devais
chanter Je te promets avec Johnny. Et il n'est jamais venu. Non, il nous avait planté.
Donc c'est bien lui.
Et donc, oui. Donc j'ai bien.
Ça se passait où, à la Garenne, non ?
Non.
C'était au
Ah oui, d'accord.
Il avait croisé Delajoux le matin. Et...
Non, mais bon, c'est vrai que...
Donc, j'ai fait une très belle rencontre avec Jean-Jacques Goldman.
Vous n'avez pas perdu au change.
Goldman, c'était bien.
Ah bah 3.0 pour vous, Philippe. Oui.
Connaissiez-vous Alain Delon lorsqu'il vous a proposé de l'accompagner au Festival de Cannes ?
Je le connaissais, qui ne connaît pas Alain Delon, quand même. Oui, donc,
même lui, il connaît.
Personnellement, non, je ne le connaissais pas. D'ailleurs, quand il m'a appelé directement, je pensais vraiment que c'était une blague.
Ouais.
Parce que bon, c'était au début de ma carrière, donc on me connaissait un peu. Maintenant,
alors là, il vous téléphone et il vous dit je vais à Cannes.
Dit, bonjour, c'est Alain Delon.
Oui. Il vous dit bonjour, c'est Alain Delon. Alain Delon aimerait vous emmener à Cannes.
J'aimerais que vous m'accompagniez et que vous montez les marches de Cannes avec moi. Donc j'ai dit, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Il m'a dit non, pas du tout. Donc, mais je ne suis pas allée parce que je ne pouvais pas, parce que j'étais en pleine répétition de tournée. Et je pense que je n'aurais pas eu le courage, parce qu'il était beaucoup trop impressionnant pour moi. Moi, cette petite fille de l'Est, aujourd'hui, certes, c'est différent, parce que même si j'ai encore un peu mes problèmes de confiance en moi, mais bon, je serais allée.
Alors, vous l'avez jamais vu, Alain Delon ?
Ah, si, après, bien sûr que oui.
Ah, oui,
au cinéma, oui.
Parce que là, vous avez une autre groupie d'Alain Delon en la personne d'Evelyne.
On a un peu la même histoire, toutes les deux, c'est fou ça. Entre nos histoires avec les messieurs, avec Monsieur Delon aussi.
Qu'est-ce qu'il y a eu avec Monsieur Delon, toi hein.
Ben, on se connaît.
Ah bon.
Ah.
Voilà.
Ah bah. 4-0, 4 pour
très
Patricia.
Bon goût, garçon.
Il y a quand même...
Bien les blondes aux yeux bleus.
De cette liaison romantique et platonique, il y a une chanson qui est sortie.
Oui, Je te dis vous.
Oui.
Parce que très longtemps...
C'est comme lui vis-à-vis de lui.
Très longtemps, je n'arrivais pas
à... Il se vouvoie dans le privé de l'autre.
Je n'arrivais pas à le tutoyer. Et en même temps, il y avait quand même cette affection. Donc, je te dis vous.
Evelyne non plus n'arrive pas à le tutoyer.
J'ai beaucoup de mal. Il me tutoie, mais moi, je...
Bon, moi, maintenant,
j'ai beaucoup de mal.
À part le pontife.
Mais c'est quoi, là, cette émission ? C'est le club des anciennes à Delon ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ?
C'est un peu ça quand même. Hein.
Après ça, pas tout le monde.
Il manque plus que Serge Lama, la Madelon.
Tu veux qu'on te raconte nos amours avec Pauline Carton ? Allez, 5-0. Je vous laisse à 0 parce que vous ne savez pas mener le débat, Philippe. Hein. Elles s'égarent, les petites là.
Bah hein. Ouais. Parce qu'on a très bien connu Georgette Plana, si vous voulez.
Alors, il y a un personnage particulièrement inquiétant qui intervient dans ce livre, c'est celui que vous appelez votre fou. Un véritable fou. Et un fou dangereux. Hein.
Oui. Le fan fou, c'est un, donc, un fan qui pendant 2 ans, c'est l'enfer. Parce que je vis un véritable... polar, parce que à la base, il vient me prévenir qu'ils sont plusieurs et qu'on veut m'enlever et que lui est là et le gentil pour me prévenir. Et à partir de ce jour-là, c'était l'horreur.
Alors, il vous suit partout.
Il me suit partout, il me donne rendez-vous à l'église Saint-Germain.
Bah, vous y allez, pourquoi vous y allez ?
Bah, moi, je veux y aller parce que je veux surtout que ça finisse, quoi, que ça s'arrête.
Vous y allez avec, la police ?
Enfin, j'y suis jamais allée. Parce que le jour où je devais y aller...
Oui.
Vous aviez rendez-vous avec Alain Delon.
qui était très protecteur et qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Oui, hein. Franchement, là...
Ah, mais il y a des hommes protecteurs.
Et donc, je ne suis jamais allée à l'église, mais je voulais y aller Parce que à partir de ce moment-là, je recevais des photos de ma famille, la tombe de ma mère, les photos de la voiture de mon papa, tout ça.
Un jour, vous l'avez trouvé dans votre appartement, hein ?
Bah, c'est ce fameux jour-là où j'étais déjà habillée en blanc parce que je voulais qu'on l'attrape. Et ce jour-là, comme par hasard, il y avait des flics à chaque étage de l'immeuble dans lequel je vivais. À l'époque, et je ne sais pas comment ce mec se retrouve devant moi avec un toki chez moi, parce que la porte était ouverte, et personne ne savait qui c'était, personne ne l'avait vu avant. Et donc, pour faire comprendre, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais je croyais qu'on avait rendez-vous à l'église Saint-Germain, etc. Mais c'est vrai que c'était l'horreur. Il a été arrêté une première fois, la deuxième fois, il a essayé de rentrer chez moi... par le balcon, j'avais ma petite bombe acrymo là, au cas où, mais j'avais l'air très con. Enfin, c'est l'anecdote rigolote dans tout ce bordel. Mais il avait un masque à gaz, donc je pouvais rien faire.
Oh là là.
Enfin bon, non, c'est vraiment une histoire. Ça se termine
tragiquement.
Ouais,
hein.
ça se termine assez tragiquement et c'est ça. Au moment même, pendant les deux ans, j'étais assez courageuse. Après,
comment ça se termine ?
L'après-coup était très difficile parce que j'avais peur de dormir sans lumière, etc. Et ça se termine que en dehors de ce que moi j'ai vécu, il avait fait d'autres conneries. Hein. C'était pas que ça. Et en fait, il est décédé, il est mort parce que il y a au moment où il a été attrapé, je ne sais pas, il y a eu...
Il s'est colleté avec la police et ça a mal tourné.
Ça a mal tourné, exactement. Ah, ouais, donc,
Ça a été pour vous quand même un soulagement.
Enfin, un soulagement, oui, mais une culpabilité. Hein, parce que, je ne sais pas, je...
Oui, vous ne vouliez pas que ça se termine aussi mal. Monsieur l'arbitre, où en est-on ?
Allez, je vous mets un point, Philippe. 1-5.
Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, là ?
Ça part du cœur, hein ?
Vous en voulez un aussi ?
Moi, j'ai que un point, moi.
Non, vous en avez cinq, je vous en mets six.
Non, mais c'est une histoire effroyable.
Bah, j'étais super courageuse. Bah,
ouais. Non. Mais je suis obligé de lui en mettre un peu, sinon je reviens plus. J'ai 12 gosses à nourrir.
Bah écoute, en mariage, forcément.
Alors, c'est l'époque où, pour vous protéger, vous engagez des gardes du corps, mais les gardes du corps, il faut les avoir chez soi, c'est pas confortable non plus.
Ah, c'est horrible parce que quand vous avez un garde du corps qui dort dans votre salon, et surtout que tout ce que vous faites, dès que vous allez à la fenêtre, vous avez l'impression qu'on vous bouscule et genre, attends, il faut que je regarde si tout va bien, du shopping, on vous accompagne. Moi, je pouvais pas.
Mais c'est l'époque où Georges Launay était garde du corps, je crois. Hein.
Ça aurait été pas mal. Ça,
ah oui, ça aurait été pas mal. Ça,
hein. Il fait le café le matin.
Là, du coup, ça m'aurait peut-être moins gêné. Hein, peut-être, hein. Quoi que les gardes du corps, en général, c'est pas mal. Hein.
Ils sont bien bâtis, des fois. Mais un peu gros.
C'est pas Stéphanie de Monaco qui était partie avec un de ses gardes du corps ?
Oui, exactement.
Son jardinier.
Elle l'a épousé, même.
Bah oui. Oh, il était marchand de poissons avant.
Oui.
Ça tombe mal parce que ça, c'est. Non, moi, j'aime pas
mais
ça.
Hein. Attendez, le suivant était également garde du corps.
Oui. C'est ce qu'on appelle un lieu commun.
Ouais. 7 points pour Patricia, 1 pour Philippe. Ça vous va, 7 ? Ça vous va, 7 ?
Oui. Ça va jusqu'à combien ?
Vous pouvez demander. 7
sur combien ?
Oh là, ça peut monter très loin.
Vous pouvez peut-être que c'est parti, on va aller à 150, 160.
Demandez comment, s'il vous plaît.
Est-il exact que, ça c'est pas dans le livre, je crois que je l'ai lu dans le journal, que vous ayez passé le dernier Noël toute seule ?
Oui. J'ai passé le dernier Noël.
Pourquoi vous
ne
m'avez pas appelé ?
Je ne savais pas que vous étiez prêt pour un 10e mariage. Hein.
Bah, si, écoutez, vous auriez dû m'appeler. J'étais tout seul devant ma dinde.
Mais je vois que vous n'avez pas lu le livre, hein, parce que je n'aime pas la dinde. Hein.
Non, mais c'est, il parlait
Noël,
de sa, non, il parlait de sa femme, là. Bon.
Vous êtes tombé chez les poètes, là.
Ah là là, je vois.
Ils sont odieux, ne faites pas attention.
J'allais apprendre beaucoup de choses.
Ça allait voler un peu.
Non, la dinde, c'est sec, c'est pas bon.
J'ai passé le dernier Noël toute seule. Mais un bon chapon, c'est pas dangereux. En fait, c'était très bien, parce que... Et encore une fois, je reviens sur le fait de dire qu'un livre, d'écrire son autobiographie, bien sûr, on n'apprend rien de nouveau parce que c'est ta vie, mais de le voir comme ça, écrit devant toi, c'est une thérapie. Et la preuve, je me suis dit, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie de faire des choses à reculons. C'est-à-dire que...
Ah bah.
que...
Ah non, Jean-Jacques, que... non.
Jean-Jacques, s'il te plaît.
Jean-Jacques.
Ah, il est chiant.
Ah non, attends.
Ça te fait rien de tenir un peu quand même.
Tu as vu qu'il en soit quand même, Jean-Jacques, allons.
La fête de Noël, c'est une fête de famille, c'est une fête où c'est beau, c'est... Je sais pas, c'est... Et là, comme les parents sont plus là, chacun a sa propre famille, c'est un peu une espèce d'obligation presque. Et là, je me suis dit, tu vas pas faire ça. Je suis restée seule avec mon chien et c'était très bien. C'était pas ce qu'il y avait de plus joyeux, mais c'était très bien. Et du coup, je suis allée voir ma famille en février et c'était 1000 fois mieux que cette espèce d'ambiance qui, à la base, déjà était ratée, quoi, parce que parce que ça ne peut plus être comme ça a été avant.
Il vous manquait un bouffon.
Ouais. Combien, monsieur l'arbitre ?
Oh, 8 pour Patricia, 1 pour vous.
Oh, mais là, ouais, je veux bien donner mon point. Là.
Il faillote.
C'est trop gentil.
Alors, 2 pour Philippe. On a volé 1.
Comment avez-vous vécu la mort de Claude François ?
J'étais super triste. D'ailleurs, c'est très marrant quand vous me posez cette question-là. Quand je l'ai appris, j'étais avec une copine et on jouait au badminton.
Ah oui.
Donc c'est pas le tennis, mais bon.
Ah, déjà, oui. Ah.
Vous aviez l'arbitre.
Et j'étais malheureuse. J'étais malade pendant 2 jours.
Le téléphone.
Parce que j'adorais, ça faisait rêver quand on chante comme ça à 8 ans, Clo-Clo. Il y avait le costume de scène, il y avait les Claudettes, il y avait tout ça. Ça faisait...
Surtout qu'il est mort en parlant allemand, Yavolt.
Monsieur l'arbitre. Je vais demander à la fédération une pénalité.
Absolument.
Il a disjoncté, le pauvre.
Quel souvenir gardez-vous de Michael Jackson ?
Quel souvenir ? J'ai eu effectivement le plaisir de le rencontrer, mais vraiment.
Lui, il buvait. Hein. Il avait un coup dans le nez, lui. Hein.
Bon.
Ah oui, il avait le nez. Hein.
Non, tu vas perdre un point.
Enfin, il buvait, quoi. Mais...
Ouais. Vous l'avez rencontré où ?
Alors, je l'ai rencontré, c'était
à
en
Disney,
Corée, en Corée et à Munich, parce qu'on faisait un concert. Enfin, on faisait, c'est très chic. Non, lui faisait un concert, mais avait invité plein d'artistes dont je faisais partie pour... alors là, je sens de vous la blague venir, mais non. Parce que comme il avait une association pour les enfants...
Ah oui, oui.
Donc,
non. Alors ça, c'est pas le genre de la maison, madame.
On a tous été élevés chez les prêtres, alors on connaît.
Voilà, donc il y avait un concert organisé, dont je faisais partie. Et quand on était en Corée, on prenait tous...
Corée du Nord ou Corée...
Non, sinon je ne suis pas sûre que je serais revenue. Oui. Mais parce qu'en général, là je me mets un point moi-même, mais quand ils aiment bien, là-bas en Corée du Nord, ils gardent.
Ils sont attachants.
Ils sont
très attachants.
Et alors donc, vous vous êtes parlé un petit peu?
Alors à un moment, on était dans un avion, tous les artistes et tout, et là moi j'étais... j'ai dit, oh, je suis quand même là aussi parce que c'est Michael Jackson, il pourrait au moins venir dire bonjour. Et donc on m'a dit, venez le voir. Et donc je suis allée le voir 3 secondes. Il avait sa petite voix comme tout le monde, c'est limité. Et très timide, mais voilà, très, je dirais pas touchant, parce que là, encore une fois, je me méfie de la blague.
Non, mais arrêtez.
Non.
C'est pas gentil, on n'est pas que ça non plus, des gros porcs. Hein. Arrêtez un peu, vous nous faites de la peine. Allez, 3 points pour vous, Philippe.
Mais
on va y arriver à l'ex-écho, hein. J'essaye. Hein.
Comment s'est passé votre baiser de cinéma avec Jeremy Irons ?
Ah ouais, là, c'est un acteur.
Ça, c'est quelque chose.
Ça, c'est un acteur.
C'est un acteur.
C'est agréable.
Ah oui, alors, quel acteur ?
Non, mais alors, c'était très drôle parce que c'était ma première expérience de, on va dire, de film, hein, donc en tant qu'actrice. Donc il y avait ce fameux baiser et j'ai demandé à Claude Lelouch, on fait comment ? Et il m'a dit, on fait du vrai. Et donc, j'ai pris mon petit bonbon à la menthe et j'ai fait mon baiser qui était très agréable. Donc, il se voulait un peu baiser de cinéma parce que, donc exagéré, parce que dans cette scène, c'était un peu un rêve. Donc, c'était un peu...
Et on a vu ça dans tous les magazines People.
Ah, ça a été... En plus, ça a été tellement... On a tellement parlé de ça. Enfin non, c'est pas celui-là d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on a fini le film, on a fait une petite fête à Londres.
Et
quand j'ai quitté Jérémy, d'ailleurs Lelouch aussi, on s'est fait un petit bisou, un petit smack. Hein. C'était pas un baiser langoureux, un petit smack. Ben, il y avait les paparazzi, parce que les Anglais, bon, ben, ils sont pires que partout. Et là, ça a été partout à la une de tous les journaux. Et c'est allé à un tel point que ça a empêché l'amitié qu'il y avait entre Jérémy et moi. Parce que c'est quand on se voyait à Paris, tout de suite, c'était trop exposé. Alors que c'était vraiment amical, quoi.
Dites-donc, c'est pas drôle, la vie d'artiste, hein, finalement.
Non, mais là, c'est vrai que là, j'en ai voulu... Enfin, beaucoup, je vais pas dire beaucoup, mais j'en ai voulu à la presse parce que souvent, d'ailleurs, l'histoire du fou fan était aussi due à une couverture de magazine où il y avait marqué Belle, célèbre, mais seule, ou je sais pas quoi.
Ah oui, voilà.
Et ça amène les gens à faire à vouloir vous protéger, à faire des conneries. Et là, ça m'a cassé une amitié.
Parce que Patricia n'est pas une artiste, c'est une star. Vous faites quand même partie des stars. Franchement. Vous êtes
oui.
Oui, absolument.
Mais quelques points.
10 points.
Voilà, 10 points d'un coup.
Là, je crois que vous avez un nouveau fan, mais il va falloir engager un garde du corps. Hein.
Ou alors le prendre lui, parce que vous le mettez dans la porte, bon, personne rentre.
On peut descendre.
Ouais, c'est bien, il fait garde du corps en même temps.
Lui,
surtout là, sur la chaise sur laquelle il est.
Je vous fais tout, garde-manger, garde du corps, tout.
Et la dinde en plus.
Et la dinde. Dernière question avant les autres. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour dans les bras de Jacques Chirac, alors qu'il venait tout juste de recevoir en cadeau la petite culotte de Madonna?
Dans les bras. Il m'a remis la médaille de la ville. Parce qu'à l'époque, il n'était pas président.
Il était sur tous les coups. Il est incroyable.
Et je suis tombée dans ses bras parce que j'ai trébuché. J'ai trébuché. Et d'ailleurs, c'était le lien avec la petite anecdote de Madonna. C'est que, bon, comme tout le monde en parlait, j'étais arrivée avec les petites nattes. Parce qu'à l'époque, elle avait son look un peu Heidi.
Heido.
Oui, Heidi.
Heidi.
Donc j'avais mes petites tresses, là, enfin mes petites nattes, et puis et le hasard fait que je suis tombée effectivement dans ses bras, pas avec ma petite culotte à la main, hein, mais voilà.
Comment voulez-vous que Bernadette soit une femme épanouie? C'est pas possible.
C'est pas possible.
Il vous a embrassé.
Félicité, quoi, ouais, pour la médaille.
Oui, bah, bien sûr. Sans la langue, bien sûr.
Chirac, il met pas la...
11 points pour Patricia, 3 pour vous, Philippe. C'est fini?
C'est fini.
Vous pouvez garder votre chien. Vous pouvez garder votre chien.
Merci, monsieur Larmide. Oh, quand il demande c'est fini, alors là, je me rends compte que c'est un supplice pour lui.
On dirait un gosse qui est au cabinet, vous savez, aïe, c'est fini.
Tu as jamais vu des cabinets aussi hauts, toi?
Ah oui.
Alors, vous allez chanter Piaf. Et chanter Piaf, c'est une bonne idée parce qu'il y a un anniversaire à célébrer dignement. Ça fait, je crois, 50 ans. Hein,
50 ans, oui. Qu'elle est partie.
Mais ça aboutit à mettre entre parenthèses, puisque l'expression vous est familière, votre répertoire personnel, les autres chansons qui ne sont pas des chansons de Piaf.
Oui. Je peux faire la première partie de Piaf, hein, sinon. C'est à partir du moment où je veux faire un hommage à cette grande dame, elle a tellement de belles chansons, de belles mélodies que...
Vous avez choisi déjà puis, les chansons ou pas?
Non, après, c'est sûr que c'est évident. Hein, enfin,
il y a
une bonne dizaine de chansons qui sont évidentes. Et ensuite, je choisirai celles qui me parlent le plus ou qui me ressemblent le plus. Mais...
Vous allez faire Tata Yo-Yo? Ah, j'adore.
C'est pas Tata Yo-Yo, c'est pas Piaf.
Ah, c'est pas Piaf.
Il confond avec Annie Cordy.
C'est Annie Cordy où tu vas.
Alors, il se trouve que nous avons retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes un souvenir cuisant de Pierre Doris à l'égard d'Edith Piaf.
Je passais dans un cabaret. Elle était en vedette, naturellement. Et je passais en première partie. En première partie, avec mes conneries que je racontais, ça devait atteindre un peu son tour, tu vois. Elle qui venait sentir la misère, et moi avant qui me foutais de tout, elle m'a fait virer du programme.
C'est pas vrai.
Si elle m'a fait virer, et j'ai passé qu'en matinée, en vedette, alors en matinée.
Parce qu'elle n'était pas là.
Parce qu'elle n'était pas là. Elle m'a cerqué.
Ah ouais,
elle avait un talent énorme. Ceci dit, c'est elle avait un talent.
C'est pas une excuse, c'était pas une raison pour la tuer.
C'est pas une excuse.
Ben, j'aurais bien tué.
Ah, c'était une sacrée bonne femme, hein. Alors la première citation, nous la devons à Mme Cauchouette-Guéret, qui a dit « Il faut toujours choisir avec soin sa première chanson, parce qu'on n'est jamais certain d'en chanter une deuxième.
Ah. » Et française ?
Français.
Tino Rossi.
Gilbert Bécaud.
Pas Tino Rossi,
Maurice
mais
Chevalier.
Ils ont Maurice Chevalier. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est vrai, c'est important la première chanson, hein.
Oui, mais enfin, en même temps, Jalouse, c'est celle qui a le moins marché, donc je ne sais pas si c'était la...
Vous démarrez avec Jalouse ?
Oui, ma première chanson dans ma carrière,
c'était... Non, mais dans un récital.
Non, pas du tout. Je ne l'ai jamais chantée sur scène, Jalouse. Mais
Une deuxième citation de Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit « L'hymne à l'amour, c'est une belle chanson française, et je suis très fier de la chanter en espagnol. »
Julio Iglesias. Julio Iglesias.
Iglesias ?
Non.
Oui. Une femme ?
Oui.
C'est un Espagnol.
Abril, oui.
Gloria Lasso.
Ariel Dombal.
C'est une vraie Espagnole.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
D'ailleurs, c'est bizarre qu'une chanson française se retrouve comme ça en espagnol. Bon, pourquoi pas, hein.
Mireille Mathieu ?
Mais oui, c'est Mireille Mathieu.
Ah.
Bonne réponse des Belutins.
Elle chante en espagnol ?
Ben oui.
Elle chante en tout, elle.
Ouais. Question de Mme Léger de Reims. Pourquoi la date du 6 février est-elle devenue la fête nationale à la Jamaïque depuis
1984 ?
Bob Marley. C'est la mort de Bob Marley. Bonne réponse de Bernard Mabille et des autres. Ah, ils connaissent tout sur la chanson, vous savez.
Ah, dès que vous parlez de trucs de notre âge, on connaît.
Oui. Votre premier tube, ça a été Mademoiselle chante le blues ?
Oui, c'est ça.
Premier carton. Mais il y en avait eu beaucoup d'autres avant ?
Juste...
Jalouse. Et Barbe Olivien, il vous a écrit des chansons ?
Bah oui.
Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a retrouvé... alors, un souvenir de Barbe Olivien, pas sur vous, un souvenir de Barbe Olivien sur Claude François.
Ma première vraie engueulade avec une idole, qui était lui... Et on se dispute, mais gravement, au studio. Enfin, pour l'époque, hein. Moi, j'étais atterri, j'avais 22 ans.
Il était coléreux ?
Très. Et je me tire. Et on dîne, je m'en souviendrai toujours, avec Delpech, tout ça, tout le monde s'en va. Puis le soir, quand même, j'ai un doute. Je me dis, merde, c'est Claude François, s'il dit que c'est pas bien, c'est peut-être je devrais le refaire. Et à minuit et demi, je me remets au boulot, je prends mon magnéto, nanana. Le téléphone sonne, 1h du mat. Allô, c'est Claude, zing, la voix comme ça. Tu as besoin de quelque chose ? Je dis non, je travaille sur ton texte, j'essaie de refaire. Je m'excuse pour tout à l'heure, tu veux que je vienne t'aider ? Je vais t'amener. Tu veux des huîtres ? Alors il partait dans des trucs à 1h du matin, tu veux des huîtres ? Je dis non, je veux pas d'huîtres. Il me dit, tu veux de l'alcool de poire ? Je dis mais non, je veux rien, je suis en train de bosser. Je vais venir t'aider. Je dis non, demain matin je te ramène le texte. En fait, c'était un type coléreux.
Oui.
Exigeant,
oui.
Qui adorait ses collaborateurs, qui adorait... Moi, il me faisait venir le soir chez Flèche, quand il avait vendu des disques, Dieu sait qu'il en vendait beaucoup, et il offrait le champagne et tout ça. Il fait venir les filles de l'agence Absolue, et moi, il savait que j'étais un peu porté sur les jeunes filles
sur
à l'époque.
Champagne.
Il me disait toujours, « Barbe Olivien, tu regardes, tu m'entends, tu regardes, mais tu ne touches pas.
» Question de Madame Laporte. Quel chanteur a été en tête du top 50 durant 15 semaines avec un album intitulé « Pochette surprise » ?
Un Français ?
Un Français, et c'était en 95. En 92.
92, Pochette
Salvador
surprise.
Salvador ?
Non. Ah, c'est un peu plus difficile. Je dirais même que c'est subtil.
Pierre Perret ? Ah, c'est subtil ?
Oui.
Ah, si c'est subtil, alors.
Ah, si c'est subtil, ça va nous échapper.
Pochette surprise.
Subtil. Un chanteur français.
Chanteur à texte, rock'n'roll ?
Jean-Michel Jarre ?
Non. Alors, ça a été une carrière...
Bobby Lapointe ?
Brillante, mais...
courte.
Assez rapide.
C'était pas Bernard Ménez avec Jolie Poupée ?
Non.
Non.
Et nous l'avons revu quelques années après.
Zanini ?
Ah ben c'est le petit là, comment oui. il s'appelle
Jordi.
Ah,
Jordi. Jordi.
C'est Jordi.
Ah Jordi. Voilà.
Et maintenant, nous allons faire éclairer notre lanterne sur quelque chose que vous ignorez peut-être, comme moi je l'ignorais, l'existence. Les facteurs doivent prêter serment, comme les médecins et les avocats. Bonjour Michel Wenner.
Bonjour.
Alors, vous êtes le porte-parole de la direction du courrier de la Poste, donc très au courant de ce serment. Tous les employés de la Poste doivent le prononcer ?
Exactement. C'est l'un des grands charmes et en même temps l'une des grandes réalités de la Poste. Nous sommes un tiers de confiance qui fait presque partie de la famille. Et lorsque les facteurs passent tous les jours au domicile de tous les foyers, c'est bien normal qu'il y ait une relation de confiance particulière avec l'ensemble des clients, et c'est pour ça qu'ils prêtent serment.
C'est d'ailleurs un peu comparable au serment d'Hippocrate. Hein, on demande à la fois la conscience professionnelle, le respect de l'intégrité des objets déposés, ben oui, l'honnêteté. Hein. On demande aussi de ne pas être indiscret, hein.
Ah non, bien entendu que lorsque le facteur fait partie de la famille, oui. il est bien sûr un peu au courant bien de oui. ce qui se passe dans le foyer et la prestation de serment vise à garder avec beaucoup de conscience et d'honnêteté oui. Toute l'information pour lui et non pas à la répandre un peu partout.
Ben oui, mettre un petit coup à la dame du recommandé, c'est pas dans le serment.
Non, mais maintenant que les boîtes aux lettres sont en bas, qu'il y a des numéros de code et tout, on le voit plus le facteur.
Mais si, on le voit.
Aussi, ah ben moi, attendez, dans province, en province, on
le voit. Les villages partout.
Ah oui, il venait boire un petit coup.
Et on l'invite à boire un petit coup. Alors j'étais étonné qu'il n'y ait pas dans le serment qu'il promette de jamais envoyer un coup de pied à un chien qui essayerait de lui mordre le mollet, parce que c'est souvent cet accident du travail qui les guette, hein.
Bah écoutez, ce que l'on attendrait, nous, ce serait que les chiens prêtent serment de ne jamais attaquer le facteur.
Oui, exactement. Merci, Monsieur Wenner, merci beaucoup. Le premier baiser. Vous vous en souvenez du premier baiser ?
Non.
Pas du tout.
Non.
Alors le second ?
Le deuxième.
Enfin, je devrais dire le deuxième.
Le deuxième.
Il y en a eu d'autres.
Parce
après.
Que si vous dites le second, c'est mauvais.
Vous pouvez peut-être demander le dernier, non ?
Avec Georges Clooney ?
Alors, le premier baiser dont vous vous souveniez ?
C'est quand elle a donné un rendez-vous et qu'elle n'est pas venue. C'était le premier baiser.
Non, mais je ne me souviens pas, alors peut-être que je ne sais pas, ou j'en ai fait trop, ou j'en ai pas fait assez, ou je ne sais pas, mais je ne me souviens pas du premier baiser.
En tant que majorette,
oui.
Peut-être que vous étiez trop jeune. Trop jeune. Oui.
Quoique bon, j'étais majorette, j'étais un peu jeune.
Ouais, dans les
mais un premier baiser,
peut-être.
On fait quoi un premier baiser, un vrai premier baiser, je crois, 15 ans, 16 ans.
Juste les lèvres,
oui, 15 ans, 16 ans.
15 ans, 16 ans.
Juste les lèvres en passant comme ça.
C'était, je sais que j'avais fait un baiser à mon voisin.
Voilà, ça vient.
Non, mais il a les moyens de vous faire parler. Hein, mettez-vous. Hein.
Non, mais je ne sais pas.
Ça va venir, on va faire monter des sandwichs et de la bière. Là.
Le facteur.
Non, pas le facteur.
Le voisin.
Surtout que j'avais un chien à l'époque, pas celui-là, mais un autre.
Un petit copain d'école.
Non.
Non, un voisin, t'as dit.
Oui, un voisin.
Un copain de bière.
Le voisin d'à côté, dans la rue.
Voilà. Il avait quel âge, le voisin ?
Le chauffeur du car.
Oh, il devait avoir, mon âge à peu près, un an de plus. Oh,
bah, alors, vous êtes très populaire.
C'était pas vraiment un baiser amoureux. C'était plus, pour savoir ce que c'est, quoi.
Oui, oui.
Pour voir l'effet que ça fait. Quoi.
Oui, pour savoir ce qu'il a mangé.
Oh ! Oh, Philippe ! Philippe, enfin !
On sent le gastronome.
Oh, oui. Oh là là.
Toi, t'as mangé du roquefort. Non, des fraises.
Oui. Oh, celle-là. Celle-là, alors. Je vous ai bien raconté que j'avais une copine, on l'appelait UNICEF, parce qu'elle avait des dents creuses. À chaque fois qu'on lui roulait un patin, on ramenait du riz.
Excusez-le, mais nous, c'est notre...
Le baiser, alors que ça doit être romantique.
C'est notre béant.
Bah alors,
romantisme ici.
Surtout qu'en France, on dit le French kiss.
Ah ouais, bah oui.
Bah alors,
En fouillant nos archives sonores, on a retrouvé quelqu'un qui, comme vous, est devenu très populaire en Russie. C'est Maxime le Forestier.
On me propose une tournée en Russie. Alors, Reggiani en revenait. Je l'appelle, je lui dis comment ça se passe. Il me dit bah, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, une traductrice entre en scène, traduit trois de tes chansons, puis tu rentres en scène, tu les chantes. Tu sors de scène, la traductrice revient, les trois suivantes, et tout, et les gens s'emmerdent pas comme ça. Et Serge me dit non, ils ont l'air d'être habitués. Je dis bon, alors j'envoie mes textes de chansons, ils m'envoient les traductions, et là c'était n'importe quoi. Alors j'ai appelé mon vieux prof de russe, monsieur Lermite, je me suis répandu en excuses. Il dit écoutez, j'ai rien foutu dans votre classe, maintenant je paye, sauvez-moi, il faut que je parle russe dans un mois et demi quand je pars en Russie. Il m'a envoyé une de ses élèves, belle, blonde, à l'oreille, qui me fait bien comprendre l'accent, etc. Et en un mois et demi, j'étais capable de présenter mon tour de chant en russe. Ce qui fait que les Russes qui croyaient pas beaucoup dans le gouvernement à l'époque pensaient que j'étais un faux français.
Vous, ça se passait comme ça, avec des traductions,
parce que,
non ?
Parce que, en fait, ce qu'ils aiment aux Français, c'est de les entendre chanter en français. Et pas, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de. Alors on apprend à dire dobre vecher ou spasiba, bien sûr, bonsoir.
Qu'est-ce que
merci.
Ça veut dire dobre vecher ?
Dobre vecher, ouais.
Dobre vecher.
Après.
Sibérie.
J'ai fait, en phonétique, j'ai chanté une chanson pour eux, mais c'était un peu, après des années, un peu comme un cadeau, mais. On m'a toujours apprécié, aimé parce que j'étais française et que je chantais en français, en fait.
Incroyable, mais ça m'est arrivé.
Alors ça, c'était, ça m'est arrivé, oui. J'ai dû, on va dire, rouler une pelle, ouais, à une femme. Donc j'ai fait une audition pour un film qui devait être réalisé par Stanley Donen qui avait fait Singing in the Rain et tous ces grands films, et j'ai fait une audition pour un rôle de Marlène Dietrich. Ce film ne s'est jamais fait parce qu'il n'a jamais trouvé l'argent pour le financer. Et il m'avait donné le rôle, et dans les essais il y avait bien sûr un moment chanté, un autre moment où je devais me présenter, enfin où Marlène se présentait pour son audition de L'Ange Bleu, et un autre où Marlène rentrait chez elle, et comme elle était bisexuelle, elle surprend son mari avec une ex à elle, et donc très fière, elle attrape cette femme et l'attrape dans les bras comme ça, et l'embrasse à pleine bouche. Et j'étais là, j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça, surtout que bon, il y avait pas mal de monde sur le plateau. Et donc, il y avait une jeune actrice, je ne me souviens plus de son nom, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu veux qu'on se mette dans un petit coin, qu'on essaye d'abord ? J'ai dit, non, je préfère que si on le fait une fois, de le faire tout de suite. Et... Donc voilà, ça c'était ma première expérience d'un baiser de femme, que je ne pouvais pas trouver agréable ou quoi que ce soit, parce que j'étais tellement stressée que.
Oui, vous ne vous souvenez pas de votre premier baiser à un homme et premier baiser à une femme, vous vous en souvenez ?
Là, c'était.
Et au Caire, dites-donc, vous vous souvenez, le gala du Caire ?
Alors ça, c'était très galère. On m'a demandé de venir chanter au Caire, et nous voilà partis là-bas. On était, je sais pas, une bonne vingtaine de personnes, entre les techniciens, les musiciens. On arrive sur place, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est-à-dire que la personne, le promoteur ou l'organisateur avait des dettes, et donc n'a jamais, je ne sais pas, les personnes qu'il avait embauchées pour construire la scène ont pris l'argent mais n'ont jamais fait leur boulot. Donc nous, on était sur place et à la sauvette, parce que le concert était annoncé, on m'a demandé de chanter dans une salle, en playback, pour du faux, sur un CD. Et moi, bon, je suis assez têtue pour ça. Et j'ai dit, ben, c'est hors de question, show parce que je suis là avec mon équipe. Et donc, ils avaient gardé tous les instruments, etc. Ils avaient gardé en nous faisant un genre de chantage. Si elle ne monte pas sur scène, on ne vous redonne pas les instruments. Je ne sais plus après comment ça s'est bien passé. Mais après, ils ne voulaient plus nous redonner les passeports. Donc, on était trois personnes sur place, un peu pris en otage pendant trois jours, parce que absolument il fallait faire ce spectacle, mais je l'ai pas fait.
Oui, mais regardez où ça l'a amené, Moubarak.
Et donc le Caire, c'est voilà.
Il
donc, depuis
payé
le
cher,
Caire, quand il m'invite,
Moubarak a payé cher.
Hein.
Il a payé très cher, Moubarak. Ça a pris des années, mais il l'a payé cher.
Elle lui apprendra.
La honte de l'invité d'honneur.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La honte. Je suis montée sur scène au Zénith de Paris. Et j'ai une chanson qui s'appelle « Le mot de passe » et qui est une chanson que je chantais en piano-voix. Je commence à chanter, je fais deux phrases, trop de mémoire. Bon, vous avez quand même presque 6000 personnes devant vous. Donc là, naturel, je dis « excusez-moi, je vais reprendre ». Je reprends deux, trois phrases, pareil. Là, je commence quand même à trembler parce que je me dis, il va falloir faire quelque chose. Donc là, je dis, je vais la reprendre une troisième fois, mais je vais prendre le texte comme ça, je ne peux pas me tromper. On me ramène le texte, je ne chante pas ce qui a marqué. Et donc, forcément, je me plante une troisième fois. Donc là, j'arrête, je dis, on va oublier ce qui vient de se passer. On va faire comme, j'ai fini l'autre chanson et j'attaque la suivante. Alors après, j'avais très peur, forcément, parce que ça ne peut pas t'arriver deux fois dans le même spectacle. Et à la fin, mais en fait, comme quoi la honte, des fois, c'est tout à fait humain et c'était devenu un super spectacle parce que les gens avaient l'impression d'avoir vécu quelque chose de d'ailleurs, c'était le cas.
Ils vous ont applaudi à chaque fois.
Ils étaient avec moi, quoi. Ils vivaient ce stress avec moi. Donc, comme quoi, des fois, la honte, c'est aussi quelque chose de magique.
Dernière citation envoyée par M. Borel de Murol, qui a dit « Quand je chante, je veux que les gens aient envie de faire l'amour. »
Un homme français ?
Un homme, pas français.
Julio Iglesias.
Julio Iglesias, excellente réponse de Bernard Mendy. Eh bien oui, racontez, cher Bernard Mabille, la belle histoire de Madame Lavis.
Un agriculteur veut prendre le train avec son canard pour rentrer chez lui, mais il a 3 heures d'attente. Il décide donc d'aller au cinéma, mais la caissière lui refuse l'entrée à cause du canard. Alors il le glisse dans son pantalon, entre au cinéma et regarde tranquillement la séance, après avoir sorti la tête de l'animal pour qu'il n'étouffe pas. À la fin de la projection, il remet la tête du canard dans le pantalon. Et sa voisine lui dit alors, j'en ai vraiment vu de toutes les tailles, de toutes les formes, mais c'est la première fois que j'en vois un qui bouffe mon pop-corn.
Patricia Cass d'être venue parler de ce film qui s'intitule très poétiquement « L'ombre de ma voix » et qui est le roman de la cadette d'une famille modeste qui est parvenue à force de talent et de courage à devenir une grande vedette. Merci, bravo, à demain. Merci.